Voilà, merci d'abord pour cette invitation. C'est vraiment une grande joie de partager avec vous ce matin la parole de Dieu. Et avant d'entrer dans la méditation de ces Écritures saintes, on va dans la prière demander à Dieu d'éclairer justement cette méditation des textes bibliques. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons d'abord te rendre grâce de nous avoir réunis ce matin pour nous faire entendre ta voix. Nous te rendons grâce pour ce dimanche, que ce soit vraiment un jour à part dans notre semaine. Un jour non seulement où notre corps se repose du travail des jours passés, mais où notre esprit s'élève à toi pour écouter ce que tu ne cesses de vouloir nous dire, pour te louer aussi d'un seul cœur et pour te rendre grâce pour la vie que tu nous donnes, en dépit des échecs, des deuils, des souffrances, des douleurs que nous traversons. Et puisque tu nous as réunis ce matin pour nous faire entendre ta parole, dispose nos cœurs à la recevoir. Et par la puissance de ton Esprit Saint, ouvre nos cœurs et nos esprits à la connaissance de ton Évangile. Oui, fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous lirons d'abord dans le premier testament, dans le livre d'un prophète, un des grands prophètes, c'est pas Ésaïe, non, c'est pas Jérémie, Ézéchiel, au chapitre 36. Et voilà la vision, la promesse que reçoit Ézéchiel, de la part de l'Éternel, et paroles qu'il va annoncer au peuple et à toute la communauté d'Israël. Chapitre 36, et nous lirons à partir du verset 25. « Je vous arracherai aux nations. » Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Pas tout à fait ce qui est écrit, mais c'est pas très grave. J'espère qu'on arrivera quand même à suivre. Voilà. Deuxième lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Au chapitre 19, excusez-moi. Décidément, je me perds dans ma Bible. Mais au chapitre 19, voilà ce qui est écrit de la part de Luc. Vous savez que Luc a écrit l'évangile de Luc. Et puis, après avoir raconté la vie de Jésus, il a raconté les premiers pas de l'Église. Et voilà ce qu'il dit. Il parle de Paul dans ce passage. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Il demanda « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Nous avons reçu le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Et puis, pour terminer, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, nous sommes la veille de la mort de Jésus, et Jésus a rassemblé tous ses disciples pour adresser ce qu'on appellera le testament spirituel du Christ, son discours d'adieu. Et voilà ce qu'il dit à ses disciples réunis. « Je ne vous en ai pas parlé dès le début, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, « Mais où vas-tu ? » Parce que je vous ai parlé, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me reverrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les entendre maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est une lumière sur mon sentier. Sanctifie-nous dans la vérité de ta parole et que ta parole éclaire notre chemin, qu'elle éclaire notre vie. Amen. Voilà, chers amis, frères et sœurs, dimanche dernier, c'était la fête de Pentecôte. Et la fête de Pentecôte, comme vous le savez, célèbre le don de l'Esprit Saint sur ceux qui étaient réunis ce jour-là à Jérusalem. Et puis aujourd'hui, dans le calendrier de mon église, tout au moins, et d'autres églises chrétiennes, c'est le dimanche de la Trinité, où nous célébrons cette Trinité, c'est-à-dire ce Dieu qui se manifeste en trois personnes, si je puis dire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est du coup pour moi l'occasion de mener avec vous une petite enquête sur cette troisième personne de la Trinité qui est quelquefois un petit peu mystérieuse pour certains chrétiens et qui pourtant fait partie, comme vous l'avez entendu, des textes bibliques que nous venons de lire depuis l'Ancien Testament et depuis même le livre de la Genèse, où l'Esprit de Dieu, la Ruach en hébreu, planait sur les eaux. Hein. Depuis que dans le Nouveau Testament, on évoque sous le terme de pneuma, ce vent qui souffle le jour de la Pentecôte sur les disciples réunis à Jérusalem. Alors, vous allez peut-être trouver ça un petit peu étrange de faire une enquête sur le Saint-Esprit à la manière d'Hercule Poirot ou de je ne sais quel détective qui partirait un peu à la enquête de sens, à la recherche justement d'un personnage mystérieux et caché. Et en effet, depuis fort longtemps, nous savons qui est le Saint-Esprit. Nous savons que c'est cette troisième personne de la Trinité que nous confessons et dont nous avons fêté la venue dimanche dernier. Mais je vous invite quand même à retourner en enfance. Je ne sais pas, peut-être que ça ne vous dira rien, mais pour moi, en tout cas, lorsque j'étais enfant, j'étais un peu saisi par ce questionnement, par cette inquiétude aussi qui m'animait. Lorsqu'on parlait à l'église de cette terrible gravité du péché contre l'esprit. Et à l'époque, je me suis toujours demandé, mais toujours avec aussi beaucoup d'angoisse, mais qui est cet Esprit Saint ? Ou qu'est-ce que l'Esprit Saint ? Et comme nous sommes toujours un peu des enfants, ou du moins devrions-nous le rester, ou le devenir pour une part, ben il ne me semble pas incongru de partir ensemble, ce matin, faire ou refaire sa connaissance. Alors l'Esprit Saint, on peut l'appeler aussi l'Esprit de Dieu, je l'ai dit, est présent dans le Premier Testament, sous le terme de Ruach, la Ruach. La Ruach, on peut traduire par différents mots. On peut traduire par le mot vent. La Ruach, c'est le vent. Mais ça peut être aussi le souffle. Et ça peut être également la respiration. Ce qui fait qu'on est en vie, que l'on respire. Et dès la Genèse, je l'ai dit aussi, on rencontre ce souffle, cette respiration, ce vent, en compagnie du Dieu créateur. Et il apparaît ensuite dans presque tous les livres de la Bible, comme celui qui œuvre auprès de Dieu, pour Dieu, et qui, du coup, agit en l'homme, et puis j'ajouterai pour l'homme. Alors aujourd'hui, il ne faut pas dire l'homme seulement, il faut dire l'être humain. Alors je vais dire pour l'être humain et en l'être humain. Et cet esprit de Dieu, ou ce vent, ce souffle, appelez-le comme vous voulez, il peut être comparé à une respiration qui exprime, je ne sais pas très bien comment on pourrait le dire, la volonté de Dieu, qui extériorise la volonté de Dieu, sa volonté de création, sa volonté de vie, sa volonté de rédemption. Et ce souffle, eh bien, quoique insaisissable, bien sûr, et souvent imperceptible, ben, ce n'est pas, bien sûr, de la fumée ou du vent, comme on dit en français. Oh, ça, c'est que du vent, ce que tu viens de dire. Au contraire, c'est ce souffle qui emporte tout avec lui, qui emporte nos existences, qui agit, qui souffle où il veut et quand il veut, et ça aussi, bien sûr, la Bible le dit, mais qui nous saisit, qui saisit l'être humain et qui, quelquefois, le transforme, le pénètre au plus profond de lui-même, le guide sur des chemins inconnus, des chemins peut-être où il ne voulait pas justement aller. Et c'est bien là d'ailleurs l'expérience dont témoigne le prophète Ézéchiel dans le passage que nous avons lu. Et sans même parler de la vocation du prophète, la parole d'Ézéchiel montre et proclame que Dieu est à l'œuvre. Oui, Dieu est à l'œuvre. Dieu va sauver son peuple de l'exil. Nous sommes à un moment clé de l'histoire du peuple d'Israël, puisque le peuple a été déporté, et Ézéchiel avec, à Babylone. On est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est dans ce contexte, et c'est toujours dans le contexte le plus difficile, qu'un prophète se lève, ici c'est Ézéchiel, pour annoncer l'action de Dieu, pour annoncer le retour, la promesse, la restauration, la purification. Et pour faire que ce peuple, qui aurait pu désespérer, vous imaginez, ce peuple il a tout perdu, Jérusalem, sa capitale, il n'a plus de temple, il n'a plus de culte, il n'a plus rien, il est déporté. Et c'est dans ce contexte que se lève le prophète pour annoncer ce qu'on pourrait résumer d'un mot, une espérance pour le peuple tout entier. Et l'Esprit de Dieu, sa respiration, son souffle, c'est ça qui va rendre possible une vie nouvelle, une vie véritable au peuple, qui, bien qu'écrasé par l'histoire, reste le peuple de Dieu. Le peuple, en tout cas, que Dieu s'est choisi à ce moment-là. Et du coup, vous voyez que, en ce sens, on pourrait dire qu'au premier terme de notre enquête, on pourrait dire que l'Esprit de Dieu a toujours quelque chose à voir avec l'inespéré. Autre manière de dire qu'il a tout à voir avec l'espérance. Oui, je crois vraiment que c'est ça le sens premier de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous permet, si nous en sommes animés, d'espérer contre toute espérance. Et dans les situations qui sont les nôtres, qui sont souvent difficiles, quelquefois où on ne voit plus d'espoir à vue humaine, eh bien, c'est là qu'il agit. Pour nous montrer qu'au-delà même de ce qu'on vit, il y a toujours un avenir que Dieu ouvre pour nous. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est bien beau tout ça. Hein? Comme dit Dalida, hein? parole et parole. Mais comment ça se passe? Comment connaît-on l'action de l'Esprit? Et comment reconnaît-on qu'il s'agit de l'Esprit? De l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Saint. Et c'est là qu'il faut lire notre second texte, qui se situe dans le livre des Actes. Alors là, le livre des Actes, c'est vraiment le livre où l'Esprit de Dieu, on peut dire, souffle. Il souffle à toutes les pages, mais donc à tous les moments de cette Église naissance, et sans cet Esprit Saint, on peut vraiment dire qu'il n'y aurait pas eu d'Église, de toute façon. Et on apprend que la connaissance de l'Esprit Saint est inséparable de l'expérience personnelle. On ne peut pas vraiment connaître l'Esprit sans qu'on l'ait rencontré, sans qu'on le vive. Et de la même manière, en reprenant le mot hébreu, « ruach », on ne peut pas vraiment connaître le souffle, la respiration, sans en faire soi-même l'expérience à un moment donné de son existence. Et on apprend également dans notre texte que l'Esprit ne vient pas de l'intérieur de nous-mêmes, mais qu'il nous est donné, que nous le recevons, on le reçoit d'un autre que nous-mêmes. Et ça prouve du coup que ce n'est pas quelque chose de suprasensoriel ou d'extralucide que nous aurions cultivé en nous-mêmes à partir de certaines aptitudes. Non, c'est vraiment un don, un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel qui se communique. Et dans notre texte, vous l'avez entendu, c'est l'apôtre Paul qui porte et signifie ce don par l'imposition des mains au baptême. En tout cas, il s'agit ici d'une expérience personnelle qui est suscitée par une rencontre, et une rencontre qui nécessite une disposition aussi du cœur pour recevoir ce cadeau du ciel. Mais poursuivons. Alors les disciples, rencontrés par Paul à Éphèse, dès lors qu'ils se sentent remplis du Saint-Esprit, Luc nous dit qu'ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Alors là, on peut évidemment s'interroger, mais qu'est-ce que ça signifie, parler en langue? Qu'est-ce que ça signifie, prophétiser? Est-ce qu'on est appelé à être comme Ézéchiel, prophète, et à être une sorte de devin qui annonce des événements futurs qui vont se dérouler dans notre monde ou dans notre vie personnelle ou la vie des autres? Est-ce que c'est parler en langue au sens aussi où les églises de Pentecôte, par exemple, l'entendent, hein, aujourd'hui, ou d'autres courants charismatiques? S'agit-il d'un langage particulier, donc, hein? Ah, entre nos églises, là, il y a des sensibilités différentes. Hein. Moi, je vais vous dire la mienne, hein. Et puis ensuite, chacun est libre, hein, de penser ce qu'il veut, hein. Parce que l'esprit, il souffle, hein. Là où est l'esprit, hein, là est la liberté aussi, dit un autre passage de la Bible. Alors pour moi j'ai envie de dire que l'image, hein, ou les mots que nous pourrions trouver pour exprimer et sentir ce que cela signifie, bien, peut-être qu'il y a un mot qui peut résumer tout cela, c'est le mot parole. L'être humain, devenu sujet, acteur de sa propre histoire par le don de l'Esprit-Saint, apprend à parler, à parler. Et pour moi, parler, ça signifie écouter d'abord, apprendre à dire. Parler en langue, alors c'est peut-être parler en toutes les langues. Alors attention, hein, moi je ne parle pas toutes les langues, hein, je ne parle pas japonais. Je ne parle pas chinois, je parle à peine l'anglais et à peine l'allemand. Mais bon, je veux dire que parler en langue, c'est peut-être parler une sorte d'espéranto divin. C'est-à-dire parler en toutes les langues, oui, c'est parler la langue unique, la seule valable, celle de Dieu, qui s'est manifestée en Jésus-Christ. La langue du Christ. Alors, je sais, le Christ parlait, Jésus, on pense qu'il parlait araméen, c'est la langue qu'on parlait chez les Juifs à Jérusalem. Peut-être qu'il savait un peu l'hébreu, qui est très proche de l'araméen. Peut-être même, les spécialistes de la Bible nous disent qu'il connaissait peut-être le grec aussi. Mais je ne parle pas de ces langues-là, non. Avoir le don des langues, bien, pour moi, c'est parler la langue faite pour l'homme, faite pour qu'il s'adresse à son Dieu et à son prochain. Langue qui n'a trouvé sa véritable mesure, sa force, que parce que le Verbe de Dieu est venu l'habiter. Alors voilà, l'Esprit Saint est ce souffle qui nous apprend à entendre, qui nous apprend à écouter, qui nous apprend à reconnaître, qui nous apprend à accueillir des frères et des sœurs qui sont peut-être différents de moi, qui nous apprend ensuite à parler, à murmurer, à parler cette langue-là, qui est une langue unique. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre que la langue de l'Évangile. Et cet apprentissage, alors pour certains, se fait brutalement, subitement, par une sorte d'illumination, une conversion immédiate. Et puis pour d'autres, cette langue, on l'apprend petit à petit, au fil du temps, à l'épreuve du temps, je devrais dire plutôt, à l'épreuve du quotidien, de la souffrance, oui, à l'épreuve du doute, à l'épreuve des questions qui sont toutes ces questions humaines qu'on peut se poser dans la vie, sur le sens du monde, sur le sens de la vie, sur le sens de la mort aussi. Mais qu'on ait fait une expérience de conversion ou bien qu'on ait, au fil du temps, mûri en soi tout ça, il y a un point commun de toute façon. C'est que quand un jour on a entendu cette langue, dans le silence de la méditation, dans le silence de la lecture de la Bible, comme on peut le faire chez soi, quand Jésus nous dit, si tu veux prier, va, enferme-toi dans ta chambre, et puis là, dans le secret, prie ton Père qui est dans les cieux. Quand on a fait cette expérience, dans le silence de la méditation biblique ou de la prière, ou encore dans nos conversations aussi, à travers la voix de quelqu'un qui nous parle, eh bien, on ne peut que dire, Seigneur, je crois en toi, je crois que tu es celui qui m'accompagne. Et quand par la grâce de l'Esprit-Saint, il nous est quelquefois, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais quelquefois, il nous est accordé nous-mêmes de parler cette langue à autrui, à notre voisin, ou dans notre famille, ou à notre, sur nos lieux de travail, on ne peut que dire « Merci Seigneur de m'avoir donné de témoigner pour toi et de toi. » Alors vous voyez, pour moi, parler en langue, c'est faire l'expérience de cette langue-là, de cette parole. Alors prophétiser, qu'est-ce que c'est ? Prophétiser, pour moi, c'est s'entendre dire, mais pour les autres, pour aujourd'hui et puis pour demain, ce Dieu-là, cette foi-là, voilà, c'est ça, c'est annoncer, témoigner de ce Dieu-là qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et annoncer à tous ceux qui sont peut-être perdus, désespérés, comme le peuple d'Israël l'était au temps d'Ézéchiel, ne sachant plus très bien s'il y avait un avenir possible pour le peuple. Ils ne voyaient pas d'avenir possible. Eh bien, c'est dire à ceux que nous rencontrons, qui sont peut-être comme dans la situation du peuple d'Israël, Dieu a un avenir pour toi. Je ne sais pas lequel, bien sûr, parce que je ne suis pas devin, j'en sais rien, mais il y a une route qui s'ouvre pour toi. Il y a une promesse. Il nous en a fait la promesse. Et c'est valable pour toi, comme pour moi. C'est valable pour nous tous. Et il me semble que c'est bien ça, ce que nous fêtons à Pentecôte, la fête du don de l'Esprit. C'est quand la vérité de Dieu et du Christ veut illuminer le monde, quand elle brûle de se dire, quand elle brûle d'être dite par la bouche des hommes et des femmes, dans la langue des hommes et des femmes, très simplement, afin qu'ils puissent connaître et comprendre que Dieu a un avenir pour eux. Et c'est bien ce qu'a annoncé Jésus la veille de sa mort à ses disciples. Vous l'avez entendu dans l'évangile de Jean. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Et Jésus dit aussi, si je ne pars pas, le défenseur, alors d'autres traductions mettent le consolateur ou encore le paraclet, eh bien, il ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et du coup, vous voyez, chers amis, frères et sœurs, eh bien, ce qu'il faut peut-être entendre pour nous dans ces paroles, c'est que l'Esprit, s'il nous unit à Dieu, Père et Fils, est aussi le signe que nous en sommes séparés. Nous sommes séparés de Dieu, le Père, par l'incommensurable distance entre le Créateur et la créature. Nous sommes séparés du Fils par l'incommensurable distance qui nous sépare du temps où il est venu. Pensez, ça fait 2000 ans qu'il est venu. Eh bien, cette distance, elle est raccourcie justement par le don de l'Esprit Saint. Et cet Esprit nous rend présents, le Père et le Fils. Et elle montre que Dieu ne s'impose pas à nous comme un tyran, mais qu'il s'adresse à nous vraiment par son Esprit, c'est-à-dire comme un Père. Abba, Père, dit Jésus. Quand vous priez, dites Abba, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et nous voyons donc que l'Esprit est ce qui rend cette parole et cette promesse vivante aujourd'hui. Et cet Esprit que Jésus nomme le Paraclet, le Consolateur, le Défenseur, signifie qui vient auprès de nous. Eh bien oui, un Consolateur, un Défenseur, le Paraclet, c'est-à-dire quelqu'un qui ne nous laisse jamais seuls, quelqu'un qui témoigne de Dieu auprès de nous et du monde, quelqu'un qui témoigne de nous et du monde auprès de Dieu. L'Esprit, voyez-vous, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, si je puis dire. On pensait peut-être que c'était très compliqué, mais non, c'est pas plus compliqué que ça. C'est la vie. La vie nouvelle, toujours nouvelle, présente dans la vie. Et c'est la respiration de Dieu, toujours à l'œuvre au cœur de ce monde, au cœur en particulier de ses difficultés, au cœur de nos vies. Et j'ai envie d'ajouter pour terminer, c'est la voix de l'amour aussi, et la voix de la vérité, toujours en travail dans le cœur des êtres humains. Alors, je termine peut-être par trois choses pour résumer. Et au moment où cette enquête prend donc fin, je voudrais que nous retenions de notre parcours trois points, trois choses, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos églises différentes et pour les relations entre nos églises. Parce que la Trinité, c'est une histoire de relations, vous l'avez compris, entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont tous les trois, en relation. Et je crois que l'Esprit-Saint aussi nous dit quelque chose de nos relations. D'abord, je dirais que la connaissance de l'Esprit, et je l'ai dit, c'est inséparable d'une rencontre. Et elle exige une expérience personnelle, expérience qui, rappelons-le, n'est pas forcément toujours extraordinaire, fulgurante. Mais c'est l'expérience de l'Esprit qui peut se vivre dans notre quotidien. Et j'ai envie de dire tous les jours de notre vie. Saint-Esprit, ce n'est pas une fois pour toutes, mais c'est tous les jours qu'il faut demander le Saint-Esprit sur nos vies, dans le secret du cœur, dans la persévérance, dans l'inquiétude ou dans l'incertitude de notre monde ou de notre vie, et surtout quand on se sent menacé, alors là il faut demander le Saint-Esprit. Et puis deuxième chose, cette expérience personnelle, elle ne suffit pas, parce qu'elle peut même comporter certains dangers si on ne va pas plus loin. L'expérience personnelle de l'Esprit, elle doit toujours se nourrir, on pourrait dire se frotter à la lecture de la Bible. Parce que sinon, si on déconnecte le Saint-Esprit de la lecture de la Bible, ça peut déraper très vite. Et puis on sait, hein, dans nos églises, ça peut déraper aussi quelquefois, hein, quand on parle du Saint-Esprit. Bon. Alors, il faut toujours connecter les deux, Bible et Saint-Esprit, pour ne pas risquer de faire dire à l'Esprit ce qu'il ne veut pas dire, justement. Et quelquefois, on lui fait dire ce qu'il ne veut pas dire. Et donc, on se prend à la place du Saint-Esprit et on pense qu'il nous dit cela, mais en fait, ce n'est pas si sûr qu'il dise vraiment ce qu'on a cru entendre, nous. Et voilà pourquoi il faut que l'Esprit-Saint soit toujours enraciné dans la lecture de la Bible. Parce que c'est lui qui donne sens au texte biblique pour aujourd'hui. Et c'est parce qu'il travaille en nous, pour nous, et les uns avec les autres, hein, que nous pouvons alors justement lui faire de la place. Et puis enfin, troisième point pour terminer, l'expérience de l'Esprit, qui est respiration, voilà, qui est lecture et écoute de la Bible, eh bien c'est aussi parole, parole. Et en ce sens, eh bien cette expérience, elle demande à se vivre avec les autres. Parce que la parole, vous savez bien, hein, c'est pas seulement pour soi, ça sert à rien de se parler à soi-même. Si on parle et si Dieu nous a dotés de la parole, c'est pour parler avec les autres. Eh bien, il me semble que l'Esprit nous pousse et nous aide à trouver notre juste voie humaine pour dire Dieu dans son amour. Et j'ajoute avec les autres. Et le fait qu'aujourd'hui on soit réunis, que vous m'ayez invité, ben c'est un beau signe que nous avons à témoigner ensemble, les uns avec les autres, les différentes églises chrétiennes présentes à Grasse. Ensemble, nous avons à témoigner, ajuster notre parole à la parole de l'autre pour dire ensemble, d'une même voix, eh bien, ce qui anime notre vie. En tout cas, je pense que c'est à cela que nous sommes invités. Et ce qui est en jeu, c'est le témoignage de l'Église, à Grasse, hein, n'allons pas plus loin, hein, mais déjà à Grasse, hein, là où Dieu nous a placés. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, ben, demandons vraiment sans cesse le Saint-Esprit, car comme le dit Jean, chapitre 7, verset 38, il est une eau qui coule sans cesse. Amen.